Alors, il dort le gros con? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux.
Ça y est, c'est reparti. Une deuxième vague qui n'en est pas une, un virus qui n'est plus tout à fait le même, des chiffres annoncés par le président qui sont soit faux, soit hyperboliques et fantaisistes, comme dit mon ami Jean-Dominique Michel. Des promesses non tenues, celle d'Olivier Véran, le ministre de la Santé qui promettait en août dernier l'augmentation des lits en réanimation. Tout comme au printemps, le réservoir de lits disponible dans le secteur privé n'est absolument pas mobilisé. Ceci alors que, rappelons-le, on ne meurt plus de Covid-19 pour autant qu'on dispose de places en réanimation, sauf à souffrir d'une vulnérabilité rare ou être déjà en toute fin de vie. Mais non, Emmanuel Macron continue à jouer les généraux de guerre et à nous faire peur avec un virus qui tue beaucoup moins que les cancers, les maladies cardiovasculaires, les drogues ou l'obésité. Que fait-on contre la malbouffe? Interdit-on les aliments bourrés de sucre, de sel et de matières grasses? L'État fait-il fermer administrativement les magasins qui rendent malade une population précaire n'ayant pas les moyens de se nourrir correctement? Non. Par contre, on ferme les lieux de culture, les théâtres, les salles de concert, les librairies, les médiathèques, comme si le théâtre de Bourg-en-Bresse, la tannerie ou les arts dans l'air à Perona devaient payer pour leur insolence de ton, de notes et de différences. Une lueur d'espoir, les libraires ont réussi à arrêter la vente de livres dans les grandes surfaces et autres magasins soi-disant culturels. Il ne manquerait plus que les gros soutiennent les petits. Et si c'était ça, le monde de demain, alors oui, ce serait vraiment le monde d'après. Au terminus des prétentieux, 944e bien et services en dehors des lois du marché ce soir, sans que la révolution pointe le bout de son nez. Un maire de droite qui désobéit à la police, si si, c'est possible, sous les 90.0 de Radio B, à Chalon-sur-Saône, au moins, les citoyens ne sont pas des cibles. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Terminus des Prétentieux tous les jeudis de 17h15 à 18h15 pour une émission vraiment pas comme les autres. Ce soir, confinement oblige, nous ne sommes pas dans les studios de Radio B. Et oui, les portes sont fermées aux bénévoles et partenaires jusqu'au 1er décembre 2020. Mais pas question de vous laisser une semaine sans émission. Chez nous, point de playlist, point de rediff ou si peu, mais une émission en bonne et due forme. Bien évidemment, pas d'annonce de concert. À notre grand regret, nous aurons une pensée pour les équipes de la tannerie et du théâtre de Bourg-en-Bresse en ces moments qu'ils ont déjà vécu au printemps dernier et qui ne doivent pas leur rappeler que de bons souvenirs. Sans oublier celles et ceux sans qui nous ne serions pas là ce soir, les artistes, et qui doivent bien se demander ce qu'ils ont fait pour mériter aussi peu de considération de la part du ministère de la Culture et qui, pour certains, n'ont plus le droit de travailler alors que les chroniqueurs de BFM, CNews et RMC réunis n'en finissent plus de nous donner envie de les décapiter. Quand je dis nous, je devrais dire je, car mon co-animateur n'a pas osé cocher la mauvaise case et utiliser son home studio. Et je suis sûr qu'il ne regrettera pas son choix, comme il le dit si bien.
Allez, go! Pardon, êtes-vous membre du club?
Non, je voudrais voir Monsieur James Bond.
De la part de qui, monsieur?
Donnez-lui ma carte, voulez-vous?
Voulez-vous laisser votre par-dessus?
200 000 en banque.
Suivi.
Suivi.
Carte.
Carte. 7 à la banque. 200 000 en banque.
Suivi.
Banco suivi.
Carte.
Carte. 8 à la banque.
Suivi.
C'est suivi.
Le casino couvre la différence?
Oui, madame. Oui, monsieur. Changeur, s'il vous plaît.
Carte.
Carte. 9 à la banque.
Et encore 4. Une plaque de 1000.
J'admire votre courage, mademoiselle...
Trench. Sylvia Trench. Et j'admire votre chance, monsieur...
Bond. James Bond.
Monsieur Bond, je suppose que vous serez d'accord si je dépasse la limite.
Aucune objection.
Impossible, madame, ce n'est pas légal.
Alors...
C'est suivi, monsieur.
Vous êtes décidé à aller jusqu'au bout?
C'est une idée comme une autre. 8.
8 à la ponte.
9.
9 à la banque.
Excusez-moi, monsieur.
Merci. Oh, André, il va falloir que je parte. Changer, vous me pardonnerez, j'espère, mais le devoir m'appelle. Merci.
Employé. Merci, monsieur.
Voulez-vous me changer ça?
Dommage que vous nous quittiez. Alors que ça commençait à devenir passionnant.
Oui. Dites-moi, Miss Trench, vous pratiquez d'autres sports? Je veux dire, à part le chemin de fer.
Le golf. Je le pratique, entre autres choses.
Demain, après déjeuner?
Demain?
Et nous pourrions peut-être dîner ensemble?
Je ne dirais pas non.
Pourrais-je
vous téléphoner demain?
Bonne idée. Mon numéro est sur la carte. Merci, monsieur.
Mon nom est Connery, Sean Connery. Telle pourrait être résumée ainsi la vie de Thomas Sean Connery, le plus écossais des acteurs et fervent supporter, malgré lui, des Rangers, lui, le fan des Celtics. Il n'est pas le fils d'eux, n'a pas la chance de fréquenter les meilleures écoles, et est plutôt bon footballeur, au point que Matt Busby, le manager de Manchester United de l'époque, lui propose d'intégrer l'équipe. J'ai compris qu'un footballeur professionnel pouvait avoir son passé derrière lui à 30 ans, et j'en avais déjà 23. J'ai décidé de devenir acteur, ce qui s'est avéré être l'une des décisions les plus intelligentes que j'ai jamais prises. On ne peut pas lui donner tort, surtout que son physique joue en sa faveur. Mais pas seulement. Après plusieurs rôles, petits pour la plupart, Sean Connery remporte un concours qui changera sa vie. Celui de jouer l'acteur principal de James Bond, l'agent 007, sorti de l'imagination de l'écrivain et ancien espion britannique Ian Fleming. La suite, vous la connaissez tous, une filmographie florissante, certains diront populaire et familiale, mais pas toujours, je pense, au nom de la rose. Mais sans James Bond, il n'aurait peut-être jamais été anobli par la reine d'Angleterre en 2000. Lui, l'Écossais, qui n'avait pas hésité en 1974 à quitter le Royaume-Uni en raison d'une fiscalité qu'il juge trop lourde et qui nous a quittés le 31 octobre 2020 à l'âge de 90 ans aux Bahamas, un paradis fiscal. Comme quoi, il ne faut pas tout mélanger, l'esprit civique et la liberté de penser. Sean Connery n'est pas non plus le plus grand acteur de tous les temps et son seul Oscar est celui de meilleur acteur dans un second rôle dans le film Les Incorruptibles et le prix du meilleur acteur pour Le Nom de la Rose attribué par le British Academy Film Award, l'équivalent des Césars au Royaume-Uni. Les deux en 1988 et qui relança une carrière un peu en berne depuis son départ des James Bond. Mais il reste indissociable à tout jamais d'une série de films cultes illustrés ce soir par le thème principal culte également composé non pas par John Barry mais par Monty Norman. Sean Connery reste en tout cas l'un des acteurs les plus populaires du cinéma. Un hommage devait lui être rendu, ce qui est fait. Merci, sœur. We'll be right back.
ce bed musical signé Lloyd Cole nous indique que nous allons parler musique.
Christian, il la joue à la guitare, cette intro, là ?
J'arrive pas, c'est trop facile.
Je m'y suis, j'ai essayé un petit peu il y a une vingtaine d'années, j'ai abandonné.
Ça fait partie des choses simples qui ont l'air de couler de source et qui sont injouables.
Ouais.
D'ailleurs, après ce bed, normalement, tu donnes l'heure et puis moi, je redis, vous écoutez.
Mais voilà.
Là, il était prêt, Tony. Il était prêt.
Ah putain, je m'étais préparé pour ça.
Pas de gros mots, on n'est pas à VFM TV, attention.
Purée, je m'étais préparé pour ça.
Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Alors, 20 ans donc d'une histoire riche qui débute en 2000 avec Cyril et l'un de ses groupes préférés. Non, il ne s'agit pas de Jamiroquai, hein. Des Tetraeds, d'Anakil et encore moins d'Olivia Ruiz ou de Mel. Hein, je veux bien sûr parler de Java et le mythique Hawaï.
Oui, leur premier album, alors c'est, j'allais dire putain 20 ans, ouais, mais c'est, oui.
Non, t'as pas le droit de le dire,
c'est fait. Et, pas évident quand on nous dit que d'un seul coup il faut choisir un album sorti comme ça un peu de nulle part parmi tant d'autres. Pas évident, alors c'est vrai que Java s'est assez vite imposé, d'ailleurs un petit peu aussi à Michel quand il m'a gentiment invité à venir fêter cet anniversaire.
C'est vrai.
Pas seulement, je pense, parce que je crois que c'était le premier groupe dont on a parlé lors de notre première rencontre. Contre Java et je me rappelle bien du côté voilà de chez Swan comme disait l'autre.
Je me souviens pas tout Michel.
On avait des bureaux qui se touchaient.
C'est ça.
En 2000
Ouais c'est vieux trop.
C'est vieux.
Mais c'est là je me souviens plus de tout maintenant Michel.
C'est vrai.
Moi non plus, heureusement d'ailleurs, c'est le bénéfice de l'âge. Donc oui pour revenir sur Java parce que ça reste un des rares groupes français, je trouve, qui a pu se lancer avec succès et plus qu'une certaine réussite dans ce mélange des genres. Parce que bon, je sais pas vous, mais moi, le rap musette matinée de jazz, de rock ou voire d'un soupçon de pop avant Java, j'ai jamais entendu. Et depuis, je n'ai jamais entendu non plus. Alors c'est vrai qu'il se ajouter à ça des textes vraiment ciselés sur des sujets très variés qui n'intéressent personne, tels que la picole, les femmes ou Dieu. Et vous comprendrez peut-être mieux la réussite de ce groupe inclassable. C'est vrai qu'il a peut-être fini un peu par se perdre au bout de 10 ans d'activité, à force de vouloir trop peut-être se renouveler, trop mélanger les genres, en faire un peu trop. Mais en tendance, ça reste pour moi un groupe qui nous a sorti cet album Hawaï, qui pour moi n'a que des perles. C'est, toutes les chansons sont superbes, toutes les chansons sont intéressantes, toutes les chansons sont marrantes. Et en particulier, celle qui m'a le plus touché, le plus fait rire à l'époque, Dieu.
Voilà, que l'on découvre.
En avant.
C'était un jour pas comme les autres, commence par une chose extraordinaire. Je me suis réveillé la tête dans le cul, ça m'était pas arrivé depuis hier. Rien à faire, qu'est-ce que je fais là? Un jour de plus d'ennui, mon foie me pardonne plus, je crois que c'était un samedi. Je suis rentré dans une église, j'ai appelé Dieu comme Don Camillo. J'avais vu le film et rien à faire, il sortait rien de là-haut. Je me suis dit un tel mégalo, y'a qu'une solution pour le sortir de la perfection. Alors je l'ai traité tous les noms, gros con, enculé, décent si t'es un homme. Je la prends dans le bain-marie, je lui parle toutes les langues de Babel et je te maudis. La terre a tremblé, bruit de tonnerre. 2000 ans qu'il avait pas mis les pieds sur terre, il a tapé une crise de nerfs. J'ai tapé le flip devant le Barracuda. Il avait moins le physique de Jésus-Christ que celui de Bouddha. J'ai joué les martyrs, il m'a pardonné. Il a fait une croix sur l'embrouille. On a bu un demi accompagné de quelques olives. Je lui ai dit c'est quoi l'art de vivre? Le monde moderne m'emmerde, j'ai pas l'esprit d'initiative. Mais qu'est-ce que je fais là? Enfin les fous fêlés, un feignant. J'ai flow, décontracté du gland. J'ai des Roland Buffet froid. Y'en a qui rêvent de soirée Ferrero ou de Ferrari. Moi je voudrais finir comme dans la grande bouffe de Marco Ferreri. Mais qu'est-ce que je fais là? Enfin les fous fêlés, un feignant. J'ai flow, décontracté du gland. J'ai des Roland Buffet froid. Y'en a qui rêvent de soirée Ferrero ou de Ferrari. Moi je voudrais finir comme dans la grande bouffe de Marco Ferreri. Il voulait voir le désastre, je l'ai emmené à Pigalle. Surpris et naïf, il a été choqué, mais dans ses yeux s'est allumé une lueur de vice. Il m'a dit
je veux voir des gens en transe qui prient pour ma face.
Une église?
Non, quelque chose de plus classe.
J'ai fait taxi au palace. Dans la toupoin, on était frac. Que t'as tes techs qui te pètent les rondes, un max de branché, tu matches, te mates. Pas trop mon truc, je fonce arrache.
Arrête, je me lâche, t'as rien à
mettre. Tu veux du Toshi?
Amène l'icône.
Et il a pris un exhausti, il a fait la danse de Saint-Guy. Fini en after à l'enfer, il a croqué le fruit. Défendu, il est parti, s'envoyant l'air à l'hôtel avec une bombe sexy. Qu'avait le diable au corps, pêché les plaisirs de la vie. Et puis, à 11h du matin, j'ai repêché, gisant tout en sueur. Avec une bonne crise de foi et la PGR baptisant le parterre. Son souffle divin avait des Roland d'outre-tombe, il m'a dit
ouais, la lumière, je serai. Mais qu'est-ce que je fais là? Avaler, croque comme fruit défendu. Tout ce qui est foire ou me fascine, il faut que je me casse avant d'être foutu. On est quel jour?
Dimanche.
Le 7ème, faut que change le système.
Et Dieu créa la flemme.
Mais qu'est-ce que je fais là? Avaler, croque comme fruit défendu. Tout ce qui est foire ou me fascine, il faut que je me casse avant d'être foutu. On est quel jour?
Dimanche.
Le 7ème, faut que change le système.
Et Dieu créa la flemme. C'était devenu un frère, un compagnon de galère. Pour moi il a fait un pack avec Saint-Pierre. J'ai le droit d'emmener un pack avant ma mise en bière. Et puis il a voulu rentrer chez lui. On a pris le premier ER de 5h30. L'omnibus pour le paradis. On a fait un arrêt à l'épicerie. On arrive à la gare, c'était la grève. Il voulait rentrer dans l'au-delà, mais on était dedans jusqu'au cou, cherchant du rêve. On est resté sur le banc à regarder les hommes brasser du vent. Si vous cherchez une fin à la chanson, bah... on a pas vraiment, hein. On a juste fini par se demander.
Mais qu'est-ce qu'on fait là? Enfin les fous finis, un feignant. J'ai flow, décontracté du gland. Général Roland Buffet froid. Y'en a qui rêvent de soirée Ferrero, de Ferrari. Bah je voudrais finir comme dans la grande bouffe de Marco Ferreri.
Mais qu'est-ce que je fais là?
Enfin les fous finis, un feignant. J'ai flow, décontracté du gland. Général Roland Buffet froid. Y'en a qui rêvent de soirée Ferrero, de Ferrari.
Bah je voudrais finir.
Mais tu peux pas, t'es un fini.
Mais qu'est-ce que je fais là?
Enfin les fous finis, un feignant. J'ai flow, contracté du gland, j'ai les Roland Buffet froid. Y'en a qui rêvent de soirée Ferrero, de Ferrari. Bah je voudrais finir comme dans la grande touffe de Marco Ferreri.
Qu'est-ce que je fais là?
Enfin les fous fêlés, un feignant. J'ai flow, décontracté du gland, j'ai les Roland Buffet froid. Y'en a qui rêvent de soirée Ferrero, de Ferrari.
Moi je voudrais finir.
Mais tu peux pas, t'es un fini.
Qu'est-ce que je fais là?
Enfin les fous fêlés, un feignant. J'ai flow, décontracté du gland, j'ai les Roland Buffet froid. Y'en a qui rêvent de soirée Ferrero, de Ferrari. Moi je voudrais finir comme dans la grande bouffe de Marco Ferreri.
Qu'est-ce que je fais là?
Dieu de l'album Hawaï de Java, n'hésitez pas à l'écouter, il n'y a que des perles dans cet album, que des perles.
Merci Cyril, on espère que tu reviendras vite nous voir. 6 ans sans se revoir, ça commençait à faire long. Est-ce le confinement du printemps dernier qui t'a donné des envies de radio? En tout cas, cela n'a pas forcément donné à certains élèves de travailler. Malgré une motivation sans faille des professeurs, qu'ils soient des écoles, des collèges ou des lycées, le constat est implacable. Le retard accumulé ne sera pas facile à récupérer. L'école de la République, désormais sous le feu du tout numérique, risque de mettre à mal le triptyque liberté, égalité, fraternité. Surtout l'égalité d'ailleurs, hein. Déjà que dans le monde des adultes, les visios sont une véritable catastrophe. Tant technique qu'humaine, alors vous pensez bien dans celui de la jeunesse où, entre équipement défectueux, matériel et motivation inexistant, et conditions de travail indignes de, justement, l'école de la République, l'éducation est mise à mal. Et ce n'est pas le soutien surprenant de leur hiérarchie et des médias lorsqu'une tête est coupée qui nous fait croire en des lendemains meilleurs. Pas sûr que les candidats au bac de français en 2020 seront à la hauteur des auteurs dont ils sont censés parler. Vous me croyez pas? La preuve avec Albert Dupontel, ça sent le vécu, professeur de français et les autres aussi, bon courage.
L'universalité de la pensée philosophique du XXe siècle, l'universalité de la pensée philosophique du XXe siècle repose sur la controverse existante entre les individualités d'écriture et l'instinct surréaliste sous-jacent chez la plupart des auteurs, tout en respectant la linéarité de la pensée du monde occidental. Allez, putain, je le sais, l'université du 20e est adjacent avec des instinctifs sur la verse du... Oh putain, je sais rien. Oh la vache, ça va être à moi. Oh, j'ai pas eu le temps de tout apprendre là. J'ai rien fait. Ça se voit pas. C'est des questions, je dirais que je fais de l'œdème. Les antisèches. Allez, les mains. Hauteur. Alors là, c'est discret, mais là, je vois rien du tout, là. Hauteur. Hop. Alors là, je vois bien tout, mais alors je suis piqué, là. Œuvre. Hop là, hauteur. Hop là.
Comme ça, hauteur, oui. Et je, là, oui. Hauteur, oui. Ah, bien sûr, je ouais, c'est là, ça. Hauteur, ouais, c'est là. Hauteur, ouais, mais... Hauteur, ah, ouais, les hauteurs. Oui, c'est moi. C'est moi, Jack. C'est moi. Et on me confirme, c'est moi. Jack, tu dis. Ah, oh, putain, ça y est, je pisse sur les philosophes. Jack, tu dis. Jack, tu dis.
Bonjour. Je tire un sujet avec mon fusil.
Ouais, ça y est, je choisis, je prends. Ça y est, c'est fini, je prends quand je finis. Sartre, comme le département. Ah non, comme le philosophe. Ah oui, vous avez le droit, c'est au programme. Bon, avant de commencer, je vais faire pipi, c'est une tradition, puis je reviens. Comment ? J'ai pas le droit ? J'y vais tout de suite, vous énervez pas, j'y vais. François Sartre. Jean-Paul, je savais. François, c'est le frère aîné. Jean-Paul Sartre. Bon, petit un, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. J'ai bon. Vous n'avez pas. Oui. Je vais écouter. Bon. Sartre Jean-Paul, ça marche aussi de l'autre côté. Hein. Sartre Jean-Paul est un philosophe. Comment ? Était ? Il est mort. Jean-Paul Sartre est mort. C'est pas possible, ça s'est arrivé quand ça ? Ah oui, il y a quand même longtemps. Non, je dis ça parce que j'ai pas été prévenu, là, pas. C'est pour ça qu'on avait plus de nouvelles, il écrivait plus. Oui, j'y vais. Bon, j'y vais tout de suite. Bon, Jean-Paul Sartre était. Oh, ça fait quand même quelque chose, hein. Je sais pas si c'est très décent de continuer. Si, j'y vais. Jean-Paul Sartre était. Ah, quand même, hein. Était un philosophe qui a bien marché. Je commence. Ah ben j'avais commencé là. L'historique, ok. Bon, petit 2, parce que j'ai fait petit 1. Petit 2, l'historique. Petit 2, historique. Alors Jean-Paul Sartre. Oui, on parle bien du même. Oui, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre est né, ça on en est sûr. Hein, Jean-Paul Sartre est né. C'était un mercredi soir vers 19h. Mais alors la date exacte, je me rappelle plus trop. D'accord, ça va. Bon, il pesait 2,8 kg, 3,2 kg, mais on s'en fout. Oui, Sartre bien, mais Sartre aussi, Sartre et. Comment ? Oui, je précise. Oui, vers 3 ans, 4 ans, il n'a pas fait grand-chose d'intéressant. Alors après, par contre, il a fait l'école. À l'école, ça se passe bien. Faut dire que les profs savaient quand même qui c'était. Hein. Sauf peut-être en sport. Maintenant qu'il est mort, on peut le dire, Jean-Paul Sartre n'était pas très physique. Pas handicapé, mais juste au-dessus, vous voyez. Par exemple, si je prends des exemples par rapport à moi, vous voyez, bah, il m'arrive à peu près à ce niveau-là. Vous voyez, il dépassait pas. À peu près, peut-être une fois il est venu là parce qu'il pleuvait, mais il a passé sa vie à peu près, son influence a été majeure sur l'existentialisme. Un mouvement qu'il a collaboré à fonder avec également de nombreux autres mouvements de tendance politique. Comment ? La tendance des mouvements politiques ?
Oh putain, ça je l'ai pas noté ça, hein ? Non je dis j'ai pas voté,
pendant la guerre il a une tendance à se taire, un peu comme tout le monde, hein. Mais alors après il était plutôt Sartre, hein. Il était plutôt, c'était pas un nazi, mais il était quand même bien droite. Gauche, bien sûr, on l'a bien vu en mai 48 quand il y a eu la révolution des étudiants. Il était gauche, hein ? Qu'est-ce qu'il a écrit ? Ah oui, c'était pas un peintre. Alors Sartre, hein.
Sartre, qu'est-ce qu'il a écrit Sartre? Les Misérables, c'est pas lui, c'est Goethe. Il a écrit à sa mère, mais ça compte pas. Ça fait comme. Qu'est-ce qu'il a fait, ça ? Il a fait la Bible. C'est pas lui, la Bible.
Ah. Non, de toute façon, ça, c'est après. Les six mousquetaires... Les six mousquetaires... Non. Ça, c'est Cousteau.
Ça, ce qu'il a bien fait comme un... Ça, je me rappelle pas du tout.
Oh là là, c'est ça, si je me rappelle.
C'est l'autre main.
Hein ? Non, je dis, il écrivait des deux mains. Un, fait deux, fait à peu près trois, quatre, cinq. Il a fait à peu près cinq. Il a fait, mais alors pour me rappeler lesquels, c'est une sorte de bain. Hein. Il a fait un si, c'est insensé ça. Il a écrit Seiko. Il a pas écrit Seiko. Qu'est-ce qu'il a écrit ? Comment ? Les mains sales ? Il a écrit les mains sales ? Ah bah ça compte plus, vous me l'avez dit, oui. Bien sûr. Jean-Paul Sartre a écrit les mains sales, ça a été même le premier à avoir écrit les mains sales. Quoi d'autre, je sais pas, j'ai pas tout lu. Comment ? L'entourage, ça je peux en parler, l'entourage, leur petit roi, l'entourage. Jean-Paul Sartre était quelqu'un de très entouré, à la guerre il a même été encerclé. Comment ? Sa femme, la femme de Sartre. Ah, femme de Sartre, oui, Sartre était marié, la pauvre femme, bien sûr je la connais, c'était... Eh bien, c'était Madame Sartre. De Beauvoir, je savais, Roland de Beauvoir, mais est-ce que ça me dit quelque chose ? Est-ce que ça me dit quelque chose ? Alors elle, c'était pareil que lui, elle réfléchissait beaucoup avant d'écrire, seulement bon, ça n'a jamais atteint des sommets, c'est une femme. Comment ? Vous aussi, vous êtes une femme ? Bien vu. N'appelez pas, je m'arrête tout de suite, n'appelez pas. C'est les hormones, c'est la puberté, n'appelez pas. Je m'arrête tout de suite, l'influence était majeure sur Hollande, puisqu'ils ont fait Beauvoir. Hein ? Est-ce que j'ai terminé ? Pourquoi j'ai oublié des trucs ? Ah, mais ça je l'ai pas dit, oui. Ah, c'est lui qui a fait le... Ah bah en plus j'apprends des trucs alors. C'est ça, ça veut dire que je l'ai pas ? Je l'ai pas. Ça, c'est pas tellement pour moi, quoi, ça aurait été pour mon père. À la ferme, je suis le seul à savoir lire, alors si en plus j'avais eu le bac, alors là, fou, alors... On passait les vacances à Lourdes. Mais là, je l'ai pas, tant pis, je vais chercher du travail à la mine. Dès que j'aurai trouvé un autre logement. Parce qu'avec mes logeurs, avec les Thénardier, ça va pas fort, hein. Si c'est à cause de ma sœur, Cosette, elle est séropositive, alors... Aïe ! Ah, c'est rien. C'est encore un cancer qui débute, ça. Je l'ai pas. Je l'ai toujours pas. Bon, enfin, madame, au revoir.
Nous étions en 1991 lors du sale spectacle d'Albert Dupontel. Voilà ce qui attend l'épreuve de français en juin 2021. Mais y aura-t-il seulement un bac de français en 2021 ? Rien n'est moins sûr. Les salles de concert seront-elles ouvertes en juin 2021 ? Espérons que oui, car les artistes n'attendent plus que vous. Et je suis sûr que les Smashing Pumpkins auront envie de jouer leur futur nouvel album, Sire, que vous présente un de nos 18 fidèles auditeurs de l'émission, Alexandre. Bonsoir.
Salut Michel, salut Tonio, bonjour aux auditrices 7 heures. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume dans le terminus, j'ai envie de présenter le nouveau titre d'un groupe dont j'étais fan quand j'étais jeune. C'était les années 90. Certains reconnaîtront ça. Ou encore ça. Eh bien oui, vous les avez reconnus, les citrouilles fracassantes de Smashing Pumpkins, qui reviennent avec un nouvel album qui devrait sortir d'ici la fin de l'année, et surtout un single sorti fin août sous le nom de Sire. On retrouve donc les Smashing Pumpkins dans sa formation quasiment originale, avec au chant et à la guitare le leader Billy Corgan, à la guitare James Iha et à la batterie Jimmy Chamberlin. Ne manque que Darcy, la bassiste, qui s'est retirée auprès de chevaux dans le Michigan. William Patrick Corgan, comme il préfère se faire appeler maintenant, a annoncé l'hiver dernier, avant le confinement, qu'il allait repartir en tournée avec un autre monstre des années 90, les Guns N' Roses. La pandémie est passée par là, et comme pour tous, les calendriers sont à revoir. On est quand même impatient d'avoir plus d'informations sur cette tournée. Allez, on écoute le dernier titre des Smashing Pumpkins, Sire.
You are.
myself, turn a glass upside down. I mean, how should they pass? Say I done told you.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau titre de Smashing Pumpkins ?
Radio B, les bonnes ondes.
Lors de l'émission spéciale des 20 ans du Terminus, nous avons dédié une rubrique aux morts des 20 ans. On aurait pu y inclure un groupe, pourtant révélé sur l'antenne de Feu Tropique FM, ancêtre de Radio B. Il s'agit du groupe français Kaolin, ou Kaolin, suivant les affinités, que nous allons tenter de ressusciter l'espace d'un soir, 6 ans après son ultime dissolution en 2014. C'est en 2002 que le Terminus a permis aux auditeurs bressans de découvrir ce groupe composé de 5 jeunes originaires de Montluçon. Ouais, Montluçon, c'est vrai que ça fait pas top, mais Liverpool s'était déjà pris par 4 jeunes dans le vent. Alors très vite, Kaolin a séduit les prétentieux par leur pop rock mélodieuse, leur guitare cristalline, en tout cas en studio, car sur scène, ça sonnait beaucoup plus métallique. Sans parler de la voix légèrement aiguë, surélevée et très séduisante de leur chanteur et leader, le bassiste Guillaume Cantillon. Allez a été l'album de la révélation avec les titres Histoire de et Pour le peu, qui est d'ailleurs régulièrement passé en clip sur M6 en 2003. Ayant eu l'honneur d'animer la première partie de Mickey 3D cette même année, le groupe sort avec Retour dans nos criques, l'album de la confirmation. Mais pour celui de la consécration, on attend toujours, puisque le troisième opus, Mélanger les couleurs, qui a pourtant été celui qui s'est le mieux vendu, délaissait en grande partie la pop léchée des deux premiers pour céder aux sonorités plus convenues de la diffusion grand public. Alors après une tentative solo infructueuse de Guillaume Cantillon, le groupe se reforme en 2010 pour sortir un album dont le titre traduit le manque d'inspiration d'un groupe qui semble alors avoir tout dit. Kaolin sort, en effet, l'album Kaolin, ou Kaolin. Ils ont dû se mettre à plusieurs pour trouver quelque chose d'aussi original et percutant. Et oserais-je parler des singles au titre malheureusement révélateur du contenu ? Allez, j'ose. Je citerai par exemple le pertinent Sans importance, le prémonitoire On s'en va, l'introspectif Tu m'emmerdes ou le très lucide Plus rien. Seul un morceau instrumental de presque 7 minutes, intitulé Cody, sauve l'ensemble du naufrage que n'évite malheureusement pas le cinquième album, Un souffle sur la roche. C'est pourquoi le Terminus vous propose un retour aux sources, ou plutôt un retour dans nos criques, titre du deuxième album, d'où est extrait le titre que nous diffusons ce soir, morceau intitulé Loin de l'île.
Yeah.
Merci Jean-Philippe pour cette présentation détaillée et pleine d'enthousiasme d'un des chouchous de l'émission, nos amis de Kaolin. La semaine dernière, nous avions invité Céline et Jérémy Tissier et nous avions évoqué et même diffusé le morceau que Just Married Band avait repris sur leur album Sable, Love is Blindness de Jack White. En fait, il s'agissait d'une reprise de reprise, puisque l'ancien chanteur des White Stripes l'avait piqué aux Irlandais de U2. Et qui dit U2 dit notre ami Marco, qui s'y connaît en matière de bonne musique, puisque c'est un fan absolu de la bande à Bono. Un combo qui l'a fait grimper, non seulement dans les arbres, mais également au firmament du rock, n'hésitant pas à braver l'interdit pour assister au concert de ses chouchous, que ce soit à Paris, Londres ou Dublin, si ma mémoire est bonne. Ce sont donc ces mots que je vous propose de découvrir. Love is Blindness est la 12e et dernière piste d'Hartung Baby, sortie en 1991. Jusque-là, rien de bien compliqué, c'est marqué sur la pochette du disque. Écrite durant les sessions d'enregistrement de Rattle and Hum en 1988, pendant le Love Tone Tour, The Age, le guitariste de U2, la qualifie comme étant l'une des meilleures chansons de Bono. Ça sent notre ami Wiki à plein nez, mais au bénéfice du doute, je m'abstiens de tout commentaire inutile. Bono, le chanteur, l'écrivit au piano et eut l'idée de l'envoyer à Nina Simone, l'une de ses idoles. U2 décida de finalement la garder pour une interprétation future. Je crois qu'ils ont bien fait, me souffle Marco. The Edge souligne également le travail phénoménal du duo Lanois-Eno à la production, combinant basse haletante et batterie. Larry Mullen, le batteur, explique avoir repris et ralenti le rythme de I Still Haven't Found What I'm Looking For, encore de la reprise, décidément. Bono mêle différents thèmes, personnels et politiques. Il y fait par exemple référence à la petite mort, l'évanouissement pendant l'orgasme, si c'est possible, dixit Marco, ça sent le vécu à plein nez, mais également à des images terroristes de mécanismes d'acier froid pour interpréter une relation charnelle. Il explique avoir été influencé par certains textes de Jacques Brel. Lui c'était les Marquises, Bono c'est l'île de Malte, pour la pureté de l'air pur, visiblement. Hartung Baby fut enregistré pendant le divorce de The Edge entre Berlin et Dublin. Très triste. Durant cette période, le guitariste de U2 laissa éclater sa colère pendant l'enregistrement du solo de guitare de Love is Blindness. Selon Bono, The Edge jouait avec ses tripes jusqu'à épuisement des cordes, si intensément qu'il cassa une corde, puis deux, pourtant pas une seule fausse note là-dedans. Et oui Marco, pas de fausse note chez U2, de frais peut-être, mais pas de musique. La chanson clôtura les concerts du Zoo TV Tour, une tournée que notre chroniqueur d'un soir a ratée. Depuis, il s'est bien rattrapé. Ce soir, l'amour est aveugle, mais pas sourd. U2, Love is Blindness. We'll be right back. Love is Blindness, extrait de l'album Hartung Baby, sorti en 1991. Just Married Band qui reprend Jack White, qui reprend U2. Marco, lui, préfère l'original et c'est tout à son honneur.
Radio B, comme bonne humeur.
Rachita, chanteur du groupe Carte de Séjour, puis artiste en solo qui a su mixer influence orientale avec les sonorités pop, électro-rock au cours d'une belle carrière, est mort il y a 2 ans. On se dit que s'il avait été parmi nous, ce pourfendeur de la tolérance, ce jouisseur, cet homme de culture, adepte de tous les mélanges, aurait été, comme beaucoup d'entre nous, terrifié dans un premier temps par l'assassinat d'un enseignant d'histoire, mais aussi par les réactions intempestives et déplacées que ce crime a pu susciter à peine le corps refroidi d'un homme décapité pour quelques dessins. De l'islamisme à l'islam, certains se sont empressés de généraliser entre ceux qui voulaient ouvrir le bagne, celles et ceux qui demandaient aux musulmans de se désolidariser de tous les fous de Dieu, et avec cerise sur le gâteau, un premier ministre qui sur TF1, face à une potiche, pouvait déclarer que la France n'avait pas à s'auto-flageller pour la colonisation. Bref, il est temps de réécouter ce soir le Voilà Voilà de Rachita, titre de 1993 sur son 2e album, morceau qui à l'époque dénonçait déjà les raccourcis contre notre compatriote musulman et tous les étrangers en général, avec un petit clin d'œil à leur premier succès, la reprise de Douce France de Charles Trenet. Il flotte en ce moment sur la France comme une odeur de peste brune et la marine nationale se frotte les mains dans la perspective de 2022 avec le concours de clowns à l'image de l'ancien premier ministre peu soucieux de ses alliances avec l'extrême droite espagnole ou ses rencontres avec des dignitaires saoudiens quand il était aux affaires, pour stigmatiser dans un raccourci à peine digne des années 30 les islamo-gauchistes. Il est donc temps pour se laver les oreilles de toutes ces ordures, de toutes ces hémorrades, le Voilà Voilà Rachita dans le terminus des prétentieux.
Étrangers, plus la cause de nos problèmes. Moi je croyais que c'était fini. Mais non, ce n'était qu'un répit. Moi je croyais que c'était fini. Mais non, ce n'était qu'un répit.
Voilà, voilà, ça commence. Partout, partout, sur la douce France. Voilà, voilà, ça commence. La mémoire, on a choisi l'oubli. Dehors, dehors, les étrangers. C'est leur remède des hommes civilisés. Quoi l'on garde, ils prospèrent. Pendant que l'on regarde ailleurs. Prenons garde, ils prospèrent. Pendant que l'on regarde ailleurs. Voilà, voilà, ça recommence. Partout, partout, sur la douce France. Voilà, voilà, ça recommence. Partout, partout, oui, ça avance. Voilà, voilà, ça recommence. Partout, partout, sur la douce France. Voilà, voilà, ça recommence.
Everywhere I hear voices say, foreigners, you are the cause of our problems. Me, I thought it was all over, but in fact, it was only a pause. Voila, voila, it's starting again. Everywhere, everywhere, even in La Douce, France. Voila, voila, it's starting again. They are coming.
Voila, voila, ça commence.
Voilà, voilà, Rachita dans le terminus des prétentieux.
Merci Patrick pour ce petit Rachita prémonitoire. Mais après tout, l'histoire est un éternel recommencement et il n'y a pas de raison qu'Emmanuel Macron n'en fasse pas partie. Et puisque l'on parle de reconfinement, mot encore pas rentré dans le dictionnaire français, on se demande où en est la réforme des retraites adoptée à grands coups de 49-3 le 29 février dernier. Suspendue par le président de la République le 16 mars, début de la guerre contre le coronavirus, Bruno Le Maire avait déclaré en septembre 2020 qu'il faut relancer cette réforme de structure indispensable pour les finances publiques. À ce jour, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Pour l'instant, pas d'âge pivot à 64 ans avec une pénalité de 5% si vous partez avant. 64 ans, en anglais 64, comme une chanson des Beatles, When I'm 64, que l'on retrouve sur l'un des plus grands, sinon le plus grand album de tous les temps. Je vais bien sûr parler de Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, sorti le 1er juin 1967. Une chanson écrite alors que les Beatles s'appelaient les Quarrymen et que Paul McCartney venait de rejoindre son ami John Lennon au sein de la formation de Liverpool. À l'époque, l'âge de la retraite au Royaume-Uni était de 65 ans et Paul McCartney a écrit la chanson en imaginant ce que serait la vie de son père Jim à cette époque. Que raconte la chanson ? Visiblement, son père parle à sa mère et s'inquiète de cette période ô combien compliquée qu'est la retraite. Quand j'aurai 64 ans, quand je serai vieux et perdrai mes cheveux, m'enverras-tu encore une carte pour la Saint-Valentin ? Auras-tu encore besoin de moi ? Me feras-tu encore à manger ? Quand j'aurai 64 ans, que sera devenu le coronavirus ? Serai-je toujours au micro de Radio B le jeudi soir ? Serai-je toujours vivant ? En chanson et en anglais, c'est quand même mieux. When I'm 64, The Beatles.
I'd be out till quarter to three. Would you lock the door?
When I'm 64, The Beatles. Nous étions en 1967. 53 ans plus tard, Patrick a la réponse.
Aller au collège ou au lycée, ça vous paraît normal. Ceci dit, ce n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Et ce n'est toujours pas le cas ailleurs dans le monde. Aller à l'école, c'est une chance. Une chance que vous offre la République française à travers ses professeurs.
Eh bien, il va être l'heure de se quitter. Tonio, bonsoir.
Bah, salut Michel. Salut bon. À tous.
Bah oui. La semaine prochaine, encore une émission surprise. Que retrouverez-vous dans le paquet cadeau? De la musique et de la bonne humeur, assurément. Sur ce, passez une excellente semaine sur les 90.0
de Radio B.
Bonne soirée.